Psalmiste, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et je crois que c'est important que nous le vivions. Ce matin, on va commencer une série intitulée Élie. On va vivre avec lui pendant maintenant les deux prochains mois. Élie, une vie engagée. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose dans ce monde aujourd'hui de plus fort, de plus latent d'ailleurs dans cette société que de se dire « prends pas de risques ». Ne te prononce pas trop. Alors, c'est derrière des aspects de sagesse. Mais je suis étonné combien nous-mêmes, les chrétiens, souvent, on a du mal à se décider pour faire des choix. Que ce soit des choix pour Dieu ou des choix dans notre travail, des choix par rapport à notre vie sentimentale, des choix, on est comme un peu pétrifié, bloqué. Le risque de faire une erreur, la crainte de se tromper. Et avec Dieu, c'est pareil. Beaucoup de personnes aiment Dieu, peut-être c'est le cas de ce matin, tu connais Dieu, tu es un sympathisant de Dieu, mais beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, qui vont à l'église le dimanche matin, ont du mal par exemple à passer par les eaux du baptême. Puis une fois qu'ils sont passés par les eaux du baptême, qu'ils se sont engagés publiquement, qu'ils sont mouillés pour Dieu, ont du mal à aller plus loin, vous voyez, du mal à s'engager des fois dans le service de Dieu, dans le service des autres. Ah mais qu'est-ce que, je ne sais pas, si, etc. Et on va voir comment Élie était un homme qui a su se positionner, s'engager pour Dieu. Il y a un texte dans la Bible qui est dans Luc, ne le cherchez pas parce que vous préparez déjà le chapitre 17 du livre des Rois, mais je voudrais juste vous dire cette parole que Jésus a dit, s'adressant à tous et particulièrement aux disciples. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Ce texte, des fois, il fait peur, non? Parce que ça me met en face d'un miroir de la parole de Dieu et qui me dit, est-ce que tu sais t'engager pour Dieu? Est-ce que tu sais t'engager pour Dieu? Je voudrais vous montrer la photo d'une tour. Cette tour, elle se situe à Aiguemorte, dans le Gard. C'est un endroit qui est tristement célèbre pour nous, les protestants, nous, les personnes qui croyons, qui avons protesté contre certains abus qu'il y avait notamment dans le catholicisme au XVIe siècle. Parmi ces femmes qui ont su protester, qui se sont levées pour Dieu, il y a une certaine Marie Durand, elle avait 18 ans, elle venait à peine de se marier, et elle a été saisie, son père a été assassiné, son frère également, et elle s'est retrouvée enfermée dans cette tour. Regardez l'image, on a une gravure, un dessin juste après. C'est ce qu'elle a écrit dans le roc, dans la roche, une petite margelle de cette tour. Elle a écrit « résister ». Vous voyez, il y a la cédille, c'était de l'ancien français. « Résister ». Elle a écrit ça parce qu'elle a eu 38 ans pour l'écrire. Pendant 38 ans, les gens qui passaient près de la tour entendaient des cantiques de femmes qui chantaient dans la nuit, qui chantaient les louanges de Dieu. Ça veut dire s'engager, mes amis. Parce qu'à cette époque-là, elles avaient la possibilité, on appelait ça d'abjurer, c'était de dire « je renonce à ma foi ». Et immédiatement, elle aurait été libérée. Pendant 38 ans, elle avait 18 ans quand elle est rentrée dans la tour. C'est 38 ans plus tard que le prince de Beauvau est passé par la tour. Et en entendant les louanges, il a voulu voir ce qui se passait à l'intérieur. Et il a vu des femmes enfermées dans des conditions absolument déplorables qui chantaient les louanges de Dieu. Et cet homme, qui n'était pas forcément croyant, a été tellement choqué, bouleversé par leur foi, qu'il a démissionné de son poste. Mais comme dernier arrêt avant, il a demandé à ce qu'elles soient toutes libérées. Il a pris sur lui de les libérer. Encore un homme qui a su s'engager. Est-ce que tu sais t'engager pour Dieu? on va voir Élie, toute sa vie, c'est un homme qui va se positionner et ça implique prendre des risques pour Dieu. On va voir combien, ce matin, c'est le premier point de cette série. Si tu veux t'engager, il va falloir, parce que sinon ça ne tiendra pas, il va falloir, dans ton engagement pour Dieu, que ton engagement soit fondé, que la force de ton engagement soit basée dans une confiance absolue en Dieu. Une confiance quotidienne, une confiance absolue en Dieu. On est parti ensemble. On lit dans le livre des Rois, 1 Rois 17. Vous êtes avec moi, on prend ensemble ce livre que l'on va garder. Vous étiez peut-être déjà dans la série avec l'apôtre Paul. La dernière fois, c'était conduit par l'Esprit, c'est dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, on bascule dans l'Ancien Testament. Et on prend verset 1er du chapitre 17 du livre des Rois. C'est la première fois qu'il est fait mention d'Élie dans la Bible. Un roi 17. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galaad, vint dire au roi Akab. Ouvrez les guillemets, c'est parti. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Là, il faut du courage, mes amis, pour dire ça à un roi comme Akab. Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande et ils se désaltéraient de l'eau du torrent. Et au bout d'un certain temps, il n'y avait plus de pluie dans le pays et le torrent se dessécha. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Premier point, Élie, c'est un homme ordinaire, mais qui a un engagement pas ordinaire. Peut-être tu vas me dire, oui, mais c'est un champion de la foi quand même. Vous connaissez déjà la fin de l'histoire, parce qu'on va étudier plusieurs fois le thème d'Élie. Et vous savez qu'au moment où Jésus va être sur la montagne de la transfiguration, vous savez ce qui se passe. Il y a Élie et Moïse quand même. C'est les big boss de la foi chrétienne. C'est les big boss de ceux qui ont tenu avec Dieu. Et lorsque Jésus veut s'entourer de quelqu'un, il prend Élie. Là, vous avez dit, oui, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Non. À la base, Élie, comme toi, est quelqu'un d'absolument ordinaire. Et c'est son engagement qui va le rendre extraordinaire. Ne croyez pas que c'est votre nom de famille, votre endroit où vous êtes né, qui va jouer votre vie. Alors, vous allez me dire, il est né où? Il est né à Tishbé. Vous savez où c'est sur une carte? Non, moi non plus, personne d'ailleurs. Tishbé, c'est, pardonnez-moi l'expression, un trou perdu des montagnes de Galaad. Et la vie d'Élie commence dans un petit village. Les monts de Galaad, c'est pas l'endroit où il y avait le plus de familles. Hein. C'est aride, c'est assez désert, c'est un pays dur. C'est un pays où, si vous voulez manger, vous devez vous battre pour casser la terre, pour planter les graines. C'est un pays où votre peau, elle prend des coups de soleil. Peut-être que c'est ça qui va le rendre d'ailleurs costaud. Tu vas me dire, mais pasteur, moi ma vie c'était dur. Raison de plus. Parce que c'est dans des endroits comme des endroits d'épines où Dieu fait jaillir des roses. C'est là où il y a des problèmes que Dieu peut forger. Et toi, tu n'arrêtes pas de te plaindre de ta situation. Mais Dieu dit, c'est parce que je te formais un caractère de femme de Dieu, un caractère d'homme de Dieu. Et Élie, c'est là qu'il a commencé. Il a commencé dans un petit village difficile, village de Tishbé, dans les monts de Galaad. C'est dur. C'est dur. Deuxième chose qui est dure, il est à la pire période de l'histoire d'Israël. Il est à la pire période de l'histoire d'Israël. Il est dans le royaume du Nord, qu'on appelle le royaume d'Israël. Il y a 19 rois qui vont succéder. En 60 ans, les rois vont se succéder. c'est à qui fera le plus le mal aux yeux de l'Éternel. Si vous, moi, je n'ai pas besoin de tourner la page, mais peut-être vous, si vous tournez la page, 1 roi 16, c'est quoi l'histoire? Le contexte à l'époque, le contexte politique, aujourd'hui on fait un peu de politique. Mais à l'époque, on faisait déjà de la politique et ça se finissait souvent mal, les histoires politiques. Moi, j'ai 1 roi 16, verset 8. La 26e année du roi d'Asa, le roi de Juda, Éla, fils de Baïcha, devint roi d'Israël à Tirtsa. Il régna 2 ans. Son officier Zimri, qui commandait la moitié des chars de guerre, complota contre lui. Pendant qu'Éla était à Tirtsa, buvant comme un ivrogne dans la maison d'Artsa, l'intendant du palais royal à Tirtsa, Zimri, survint et le frappa à mort. Zimri lui succéda sur le trône. Après, vous allez voir la suite. Il y a un autre, Baïcha, hop, terminé. C'est des assassinats, des tueries, des complots, des meurtres. Et vous allez dire, mais il y a bien un quand même qui va se réveiller et qui va dire, on arrête la folie, on va se tourner vers Dieu. Aucun. Et ça va de mal en pire. Et l'histoire d'Israël, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à... Donc il y a Omri, encore c'est un autre tordu. Il n'y a que des tordus, de toute façon, vous cherchez, vous n'en trouverez pas de mieux. Et on arrive au verset 29. La 38e année du règne d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Akab, fils d'Omri, fit ce que l'Éternel considère comme mal et fut pire. Alors là, je me dis, comment est-ce possible? Eh bien si, c'est possible. Des fois, vous vous dites, mais Seigneur, la situation, elle n'est pas bonne. Ça ne peut pas être pire. Si, ça peut être pire. Quand le diable se déchaîne, il se déchaîne. Et être un chrétien, être un homme de Dieu, être une femme de Dieu, dans un contexte où le diable se déchaîne, il va vous falloir des tripes. Il va vous falloir un véritable engagement pour Dieu. Parce que Akab, en plus, il a fait un mariage. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il épousait encore Jézabel, fils d'Ethbaal, le roi des Sidoniens. Et il alla jusqu'à rendre un culte au dieu de Baal et à se prosterner devant lui. Il construisit un temple en l'honneur de Baal à Samarie, dressa un autel. Il érigea un poteau sacré à la déesse Akéra. Tous ses actes, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Là, j'ai pas envie de dire amen parce que c'est terrible. Dans les choix d'Akab, Akab, c'est marrant, c'est comme si c'était l'anti-Élie. Des fois, vous vous demandez, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis en présence de personnes aussi tordues? Et Dieu veut dire, c'est pour que tu sois très différent, pour que tu sois très différente. Dieu, des fois, fait exprès de te mettre dans des situations où le péché abonde pour que la grâce surabonde, pour que tu puisses faire la différence. Et toi, tu n'arrêtes pas de te plaindre. Seigneur, mais pourquoi elle est comme ça là? C'est justement pour que tu puisses faire la différence dans ton environnement hostile. Et Élie, il a décidé, je ne serai pas comme Akab. Akab est un homme mou, un homme du compromis, un homme qui s'était marié, qui a fait des mariages, pas forcément des mariages d'amour, mais histoire de faire une alliance pour pas avoir de problème avec le roi de Sidon. Et il a fait plein de compromis. Sa femme était une tordue, donc il a fait des choses tordues. Sa femme aimait la prostitution sacrée, donc il a fait de la prostitution sacrée. Sa femme a voulu un poteau à la déesse d'Akéra, donc c'était, il y avait des filles qui devaient se prostituer, qui étaient battues, c'était horrible. Mais Akab disait, pourquoi pas? Toujours dans le compromis mielleux. Et Élie est un homme qui va se lever de son trou perdu. Il va dire, je me lèverai. Il faut bien qu'il y ait une personne qui se lève. Pourquoi c'est toi, Élie? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est Dieu qui t'a mis là. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis dans la situation dans laquelle tu es ce matin. Pour toi qui écoutes ce message, peut-être par internet ou sur un CD, je ne sais pas pourquoi Dieu te permet que tu vives ça dans ta vie. Mais qui enverrai-je? Qui marchera pour moi, dit Dieu? Y aura-t-il encore la foi sur la terre avant que je revienne? Élie va se lever. Dernière chose sur Jézabel. Jézabel, elle est la descendante de Esbaal. Baal, c'est le dieu de la fécondité. Fécondité, ça peut paraître un très joli mot, mais dans l'ancien temps, c'est aussi plein d'orgies sexuelles, de choses comme ça. Mais c'était le dieu de la pluie. Et je vous demande de retenir ça. Baal se disait, parce que c'était l'eau, vous savez, c'est l'eau qui fait germer les graines, on est d'accord. Et c'est pour ça que le dieu de la fécondité était le dieu de la pluie. Et la première chose, le premier message que Dieu va te mettre sur ton cœur lorsque tu vas être en face d'Akab, c'est « Il n'y aura plus de pluie. » Parce que Baal est un faux dieu. Baal est un faux dieu. C'est comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Tu sais de quel village tu viens peut-être, mais est-ce que tu sais quel est ton nom? Moi, je ne sais pas. Et Élie, peut-être son village, il n'est pas venu vers Akab en disant « Je viens de Tishbé, super ville. » Non, Tishbé, personne ne connaît. Par contre, il est venu avec un nom. En hébreu, d'ailleurs, c'est en anglais, vous retrouvez la racine, c'est Elijah. Elijah. Elle, c'est Dieu. El Ohim. El Shaddai, d'accord? C'est Dieu qui. El, I, c'est la jonction, c'est comme un E. Ja, Ya, Yahvé, Jéhovah. Le nom d'Élie, c'est El, Dieu, le Seigneur est mon Dieu. Le Seigneur est mon Dieu. Mon Dieu, je le connais. Vous ne connaissez pas le nom de mon village, mais je connais le Dieu qui vit en moi. Je ne viens pas d'un endroit favorisé. Je viens peut-être d'un lieu que tout le monde méprise. Mais j'ai un Dieu qui est puissant. Et je ne viens pas au nom de mon village. Je viens au nom du Dieu qui vit en moi. Tu ne viens pas au nom de ta culture. Mets pas ta culture pour te justifier. Mets pas tes origines. C'est très respectable tout ça. Mais ta vraie force est dans le nom du Dieu qui habite en toi. Ta vraie force, elle est là. Et Elijah va se lever pour Dieu. Alors, il y a deux choses. On a vu le premier point. Il y a deux autres points que je veux voir avec vous ce matin. C'est le point suivant. La force de l'engagement. Une confiance absolue en Dieu. Parce que le message que tu as est difficile. Hein. On verra d'ailleurs dans les prochaines analyses que bien s'engager veut dire des fois être mal jugé, être rejeté, être critiqué. Parce que quand tu as un message comme ça difficile, tu vas pas te faire que des amis. Hein. Regardez, verset 2. Après cela, l'Éternel dit à Élie, quitte ce lieu. Va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Ils viennent dire au roi Akab, il n'y aura plus de pluie dans le pays. Et Dieu lui dit, va te cacher. Cache-toi, pars, quitte. Premièrement, je pense qu'il faut que tu réalises quelque chose. Ton engagement pour Dieu doit être fondé non pas sur ce que tu dis aux autres, mais sur ce que Dieu te dit. Vous voyez, et là je parle à toutes les personnes qui ont peut-être des années de service avec Dieu. Vous êtes convaincus de Dieu. Vous avez une confiance en Dieu, vous avez même donné des paroles de Dieu pour les autres. Est-ce que Dieu te parle encore? Parce qu'il peut être dangereux, et ça nous guette, même nous les pasteurs, à force de donner des choses pour les autres, est-ce que l'on reçoit encore de Dieu des consignes? Parce que plus ton niveau de responsabilité, et plus le message que tu portes est lourd et important et impactera la vie des autres, plus Dieu te demande à toi-même de monter dans la présence de Dieu. Et de recevoir de Dieu des consignes pour toi aussi. C'est trop facile de dire à ton conjoint, sois plus spirituel. C'est trop facile de dire à ton conjoint, viens à l'église avec moi. C'est bien toutes ces choses-là. Je voudrais que tu peux... Très bien. Et toi? Et toi? Toi qui dis à tes enfants, lisez votre Bible. Tu lis ta Bible? Toi qui fais la morale aux autres parce qu'ils ne prient pas assez. Elle en est où ta vie spirituelle? Toi qui étais une championne des CD de louange, ça fait combien de temps que Le disque, il est rayé, il marche plus, il est oublié. Premièrement, tu dois être en cohérence. Tes paroles et tes actes doivent être en cohérence. Tu as annoncé qu'il n'y allait plus avoir la pluie, ça a aussi des conséquences pour ta vie. Et tu vas devoir partir, aller dans là où Dieu t'amène d'ailleurs. Et Dieu t'amène où ? Alors accrochez-vous là, il y a quelques informations importantes. Quelques informations importantes. Le lieu Kérit. Bon, Kérit, c'est pas très loin, parce que c'est dans les monts de Galaad, donc c'est un endroit qu'il connaît à peu près. Mais des fois, il y a des endroits que tu connais et tu as envie d'y aller. Et parfois, Dieu t'amène dans des endroits que tu connais, mais tu n'as pas envie d'y aller. Alors, mettez-vous à la place d'Élie. Kérit, vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire couper, séparer, en hébreu. Couper, séparer. Combien d'entre vous aiment servir Dieu quand c'est visible, en public, gratifiant, avec honneur, chanteuse. C'est bien d'être chanteuse pour Dieu. T'as toujours quelqu'un qui vient te voir. Même, je vais vous dire, même les prédicateurs. Pourquoi il y a autant de monde qui veut être prédicateur ? Parce que même si vous prêchez très mal, il y a toujours une mamie gentille qui, à la fin, vient vous dire « Merci, frère, pour la pensée. » C'est facile, ça. C'est la partie facile du ministère. Même quand vous êtes mauvais, il y a quelqu'un qui va mentir sans le savoir. Pour vous encourager. Vous avez chanté faux tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire. Oh, il y en a qui vont pas vous rater aussi, hein, mais bon. Mais il y a toujours quelqu'un qui va dire « Mais t'as parlé avec ton cœur, c'était beau. » Je voudrais vous parler du vrai ministère que Dieu attend de toi. Et des fois, le vrai ministère, Dieu dit « Cache-toi. » « Ah non, Seigneur, je veux te servir de façon active, que ça se voit, quoi. » Et Dieu dit à Élie, je t'attends pendant un nombre indéfini d'années dans un endroit perdu, pas visible, dans un ravin. Il y a des mamans parmi nous ce matin. Il y a des mamans qui élèvent des enfants et qui ont peut-être fait des croix et vous demandez, mais Seigneur, pourquoi ? Sur leur carrière. Qui ont fait des croix ou des papas qui ont dit non à des opportunités. Et qui dit, mais Seigneur, tu m'as mis au placard ou quoi ? Des fois, le plan de Dieu passe par le placard. Je voudrais vous dire autre chose. Il y a des églises qui vont vous dire, Dieu va faire de toi un champion, la prospérité, tu seras un vaillant. Oh, c'est vrai aussi, mais c'est pas toujours vrai. Il y a des périodes dans votre vie où même si vous appelez Élie, vous avez un appel majestueux. Dieu veut vous allier dans un ravin. Une cachette. Et il est dans la cachette de Kérit. Et c'est là que Dieu l'attend. Et il y a un matin qui passe, et il y a un soir qui passe. Et il y a un matin, et il y a un soir. Et il y a un matin, et il y a un soir. Et qu'est-ce qu'il fait pendant la journée ? Ça vous est déjà arrivé de tourner en rond ? C'est difficile à gérer ça. Parce que être seul et se sentir comme mis de côté par Dieu, mis au placard, c'est dur. Moi, je veux bien aller que Dieu me dise, Yvan, Dieu t'appelle, pars et va dans un endroit où il y a du monde, où ça bouge. Moi, j'ai un tempérament qui bouge, vous voyez ? Du moment qu'il y a de l'action, je suis heureux. Mais si Dieu me fait le même coup qu'il a fait à Élie, j'aime autant vous dire que j'aurais du mal à aller à Kérit. Et peut-être c'est pour ça que tu ne vis pas bien aujourd'hui. Parce que Dieu t'a mis à Kérit et tu es simplement en colère avec Dieu. Parce que tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as mis là ? Parce qu'à Kérit, il y a deux choses que Dieu veut pour toi. Il veut une protection. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là, mais c'est peut-être pour te protéger. C'est là où tu seras protégé d'Akab, parce que tu ne te rends pas compte combien Akab veut te tuer peut-être. Et si tu voyais les plans de l'adversaire, tu comprendrais peut-être pourquoi il t'a protégé dans cet endroit-là. Et deuxième chose, à Kérit, Dieu veut pour toi une formation. Tu sais ce qu'il va tester ? Il va tester ta confiance en Dieu. Parce que le chemin vers lequel tu vas est tellement difficile. Là, ça devient dur ce matin. Là, le niveau commence à monter. Le chemin que Dieu a pour toi est peut-être tellement difficile. Et tu vas devoir tellement te positionner et faire des choix dans ta vie qui impliqueront une différence avec les autres que si tu n'as pas une confiance absolue en Dieu, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi ? Il t'a prévu un lieu, il t'a prévu une boisson et il t'a prévu une nourriture. Allez-y pour la boisson. Franchement, ça me plaît. C'est le seul truc qui me plaît dans le plan de Dieu. Le torrent de Kérit, ça va. L'eau, elle est fraîche. C'est de l'eau claire. Ça tombe de la montagne et je le bois. Il doit y avoir bien un petit creux qui va me servir de baignoire. Je suis bien là. Heureusement qu'il y a des bons endroits dans le plan de Dieu. Même dans les moments difficiles, Dieu nous donne quand même de l'eau fraîche. Est-ce que tu as de l'eau fraîche? Est-ce que tu arrives à boire? Parce que si tu ne profites pas de l'eau, tu es mal parti. Hein. Même dans l'endroit le plus difficile et le pire des ravins, Dieu a de l'eau pour toi. Saisis, bois-la. Profites-en, c'est la partie agréable et c'est la partie nécessaire pour te ressourcer. Te ressourcer. Bon, maintenant, il y a une deuxième partie. C'est l'histoire des petites bébêtes noires, là. Ça me plaît pas trop, ça. Ça me plaît pas trop. Parce que Dieu dit, je vais demander à des corbeaux de te nourrir. Oh là là. Y a-t-il des preneurs pour du corbeau cet après-midi? Non, mais je parle du repas de midi. Non, pas forcément manger le corbeau. Non, j'ai dit que le corbeau... Non, mais c'est pire encore. Parce qu'au moins le corbeau grillé, à la rigueur. Et encore. Le corbeau, c'est un animal impur pour Élie. Hein. C'est déjà du pas bon. Hein. Non, mais attendez, le corbeau, il mange... c'est le corbeau qui va lui chercher de la viande. Dans le réfrigérateur de qui? Il n'y a pas de réfrigérateur, frère. Ça veut dire que le corbeau, il va chercher de la viande où? Ben là où il y a des trucs morts, quoi. Il y a une petite charogne par ici. Un petit rat qui est desséché. Hop! C'est ça qui va manger le midi. Hein. Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Bénis ces nourritures, Seigneur, qu'elles m'amènent aucune maladie. Au nom de Jésus, amen. Et tu manges? Il y en a qui sont en train de faire de l'indigestion, là, déjà. Mais c'est peut-être aussi dans ta vie. Hein. Parce que Dieu te nourrit, mais tu dis, Seigneur, quand même. Tu peux pas me faire une petite folie ce midi quand même? C'est dimanche, Seigneur. Un petit gâteau ou quelque chose. Le corbeau, il va chercher la viande. T'as ta ration le matin, t'as la ration du soir. Est-ce que... j'ai un point pour vous. Est-ce que tu sais que du pire, c'est-à-dire le corbeau, il est impur, mais il va chercher de la nourriture super impure, Dieu peut te donner des forces incroyables, te faire grandir, développer ta confiance en Dieu. Parce que chaque matin, tu vas devoir t'attendre à quelque chose de bizarre, mais c'est Dieu qui pourvoit. Est-ce que tu sais que Dieu s'est tourné le mal en bien? Regardez cette image. Est-ce que c'est possible de me montrer ce plan de coton? Regardez le plan de coton. C'est beau le coton, hein? Bon, mais en fait, c'est un village de l'Alabama, Enterprise, champion dans les années 1910 de la production de coton. L'Alabama, le pays du coton. Les fermiers produisaient des tonnes et des tonnes de coton. Et le petit village d'Enterprise tournait grâce à des tonnes de coton. Ils avaient un climat exceptionnel pour le coton. Jusqu'au jour où, montrez-moi le monsieur, Antonome ou Charançon du coton, ces bébêtes, non, juste l'image d'avant, ces bébêtes, ont commencé à manger le coton. Ils découpaient les plantes de coton. Et des fermiers, les uns après les autres, ont vu leur niveau de dette augmenter, alors que les récoltes diminuaient. Il y avait des fermiers qui faisaient des réunions pour essayer de penser comment on peut détruire cet insecte. Cet insecte qui nous apporte la mort. Il venait du Mexique. Il avait migré et il est arrivé dans les champs de coton d'Alabama. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui a une idée et qui s'est dit « De ce mal, Dieu peut faire sortir du bien. » Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit « Et si on changeait notre récolte de coton ?» Et il y a un premier fermier qui a commencé à enlever son champ de coton et qui a planté des arachides, des cacahuètes. Et il a commencé à mettre quelques dizaines de plants de cacahuètes. C'est ce qui s'est passé. Cette année-là, les cacahuètes du fermier lui ont payé toutes ses dettes. L'année suivante, ce fermier est devenu le plus riche du village d'Enterprise. Et tous les fermiers se sont mis à faire des arachides. En 1919, dernière image. Ça, c'est une statue. C'est le monument. Il est toujours visible dans la ville d'Enterprise. À Main Street, de toute manière, il n'y a qu'une rue. Hein. Ne cherchez pas trop. Si vous y allez, vous allez le trouver. Et dans cette statue, au-dessus, on a mis « Merci aux charançons !» Cet animal a fait la prospérité du village parce qu'il a ruiné nos récoltes. Vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez que des corbeaux peuvent être votre bénédiction ? Est-ce que vous comprenez que Dieu peut prendre des choses faibles pour vous bénir ? Alors arrête de criser, de crier, de pleurer. Dieu sait, dépend de lui et confiance en lui. Dieu peut utiliser des charançons, il peut utiliser des corbeaux. Dieu sait comment te bénir. Et j'arrive au dernier point ce matin. Après, je vais vous quitter, on va prier Dieu. Mais je voudrais vous dire, la force de l'engagement tiendra sur l'aspect quotidien, le fait que tu t'appuies sur Dieu au quotidien. C'est tous les jours que Dieu avait prévu, tous les jours. Matin et soir, c'est le dernier verset. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande et ils se désaltéraient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent... Ah non, Seigneur. Ah non, c'était le seul truc qui était bien dans l'affaire. Vous vous rendez compte de ça ? Qu'est-ce qui permettait d'avaler les petits morceaux là, de steak pas frais ? Comme votre Doliprane. Un grand verre d'eau pour que ça passe. Croix, croix, boum, dans la gamelle, on fait frire à la poêle, et un grand verre d'eau et ça passe. Mais là, au bout d'un certain temps, le torrent se dessécha. Ça veut dire que chaque jour, il voyait qu'il y avait moins en moins d'eau. Oh. Seigneur, tu es en train de faire une petite erreur là. C'est ce que j'appelle comment tu vas gérer les petites... Enfin, c'est pas les erreurs de Dieu, c'est ce que toi tu penses. Comment gérer ce que tu crois être des erreurs de Dieu ? Ça m'est arrivé ça. Hein. Dans ma vie, avant de partir aux USA, j'ai vraiment cherché le plan de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux un signe, je veux que tu me conduises, je veux me mettre en prière. Est-ce que tu me veux là-bas ? Est-ce que la bénédiction de Dieu, c'est là-bas que tu me la donneras ? Est-ce que je peux ? Et j'ai reçu, dis donc, un SMS. Des fois, c'est bizarre, hein, les plans de Dieu. Au moment où j'étais en prière, je dis, Seigneur, tu me donnes une... Il ne le fait pas tout le temps. Hein. Demandez pas toujours des SMS de Dieu, mais il gère aussi les téléphones portables. Et il m'a envoyé, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un SMS. Bonjour Yvan, avec un I. Oui, au cas où il y a un Y. Non, avec un I. Bonjour Yvan, mon prénom. Bonjour Yvan, as-tu pris tes billets d'avion ? Ah ben non, mais je vais les prendre alors. J'ai loué Dieu. C'est quelqu'un qui s'était trompé de Yvan. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, en plus, avec un I. Et il avait fait un SMS qu'il avait envoyé à la mauvaise personne, c'est arrivé sur moi, pour me dire de prendre des billets d'avion. Mais écoutez, mais tu es parti aux USA avec ça. J'ai dit au nom du Seigneur, je me lève, je suis parti aux USA. Et là-bas, eh ben... Alors que ça partait avec beaucoup de fougue et beaucoup de paroles de Dieu, bah le torrent il s'est un peu desséché, vous voyez. Et plus les mois passaient, et plus j'étais en dépression. Et j'ai souffert là-bas. Et j'ai souffert de plus en plus et de plus en plus bas. Et au bout d'un moment, vous dites, mais Dieu, l'eau du torrent, elle est passée où ? Peut-être c'est quelqu'un qui avait démarré, vous avez peut-être démarré dans votre vie, il y a eu des bénédictions de Dieu, et puis là, vous dites, oh là, Seigneur, je ne comprends pas trop, là. Tu avais promis que tu pourvoirais à tous mes besoins avec les corbeaux et avec le torrent. Ok, pour les corbeaux, j'ai accepté. Mais l'histoire du torrent, tu es en train de me l'enlever. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de réussite. Mais si la seule réussite que vous avez dans votre vie qui vient de Dieu, vous la perdez. Et si Dieu te retire un être cher. Et si Dieu permet, vous voyez comme ces choses longues, c'est pour ça que je pense un peu à la maladie, parce que souvent c'est ça la maladie. C'est que c'est un peu et continuellement. que ça fait mal. Puis, plus. Et alors là, on se dit, Seigneur, l'eau est desséchée! Voyez, peut-être que Élie se disait, il avait peut-être peur que le problème vienne des corbeaux. Parce que franchement, l'histoire que les corbeaux, eux aussi, ils devaient avoir faim. Alors, moi, j'aurais plutôt eu tendance, Seigneur, donne du zèle aux corbeaux pour qu'ils ne m'oublient pas aujourd'hui. Et j'aurais plutôt anticipé que les corbeaux allaient prendre un impôt sur ce qu'ils devaient me donner. Mais là, c'est pas le cas, vous voyez. C'est Dieu qui permet que ça soit le torrent. Alors, je me pose cette question. Parce qu'on a le problème d'Élie, là. L'eau du torrent se dessécha. Vous vous rappelez le premier verset ? Le premier verset, c'était « La pluie cessera ». Oh, faut le remettre, parce que vous avez oublié. Regardez la dernière ligne. « Sauf si... » Et là, spirituellement, je vais en perdre certains. Là, je vous demande toute votre concentration, c'est vraiment la fin, mais c'est dur à comprendre. Parce que ça va vous demander une confiance en Dieu absolue. Sauf si je le demande. Dieu avait donné à Élie la possibilité de réclamer la pluie. Attendez, pasteur, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que Élie avait la possibilité, à l'instant même où il prierait, de remettre de l'eau dans le torrent. Et pourtant, il a vu le torrent se dessécher. Et il n'a pas cédé à la facilité de dire « Dieu, tu donnes. Amen. » Et là, spirituellement, c'est dur à comprendre. Ça veut dire que Dieu peut vous amener dans des endroits d'épreuve. Où Dieu est prêt, si vous le demandez, à faire arrêter l'épreuve. Seigneur Jésus, c'est dur pour moi-même. Dieu est prêt à dire, je te donne la possibilité. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes dans la Bible qui ont eu le miracle alors que ce n'était même pas prévu. Vous vous rappelez cette femme où Dieu a dit, je ne suis pas venu pour vous. Mais elle a eu son miracle, d'accord ? Mais vous voyez, des fois, Dieu est prêt à honorer ta foi et à te répondre. Mais il y a un niveau de consécration avec Dieu, de dépendance de Dieu, de confiance absolue avec Dieu. Où, plutôt que de dire le plus simple, le plus vite, tu dis, Seigneur, si ton plan n'est pas que ça vienne l'eau tout de suite, je ne forcerai pas la main de Dieu. Je ne forcerai pas la main de Dieu. Je ne forcerai pas la main de Dieu dans mon mariage. Je ne forcerai pas la main de Dieu par rapport à ma guérison. Je ne forcerai pas la main de Dieu par rapport à mon travail. Je ne forcerai pas la main de Dieu par rapport à mon logement. Je ne forcerai pas la main de Dieu par rapport à mes... Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que vous... Là, il y a plus grand monde, vous voyez. Parce que 99,9% des personnes demandent de l'eau quand ils voient que le torrent baisse. Mais Élie n'a pas reçu dans son cœur que c'était le temps pour Dieu d'avoir de la belle eau. Alors il a dit, Seigneur, vu que tu me donnes la possibilité, mais que tu m'en as pas donné la consigne, j'attends. Être sûr que ça vienne de toi. Alors, verset 8, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, installe-toi là-bas, car j'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Vous savez, quand je vous disais ce qui semble être une erreur de Dieu, c'est un test de Dieu. Et là, Élie, il était testé, comme ta foi est testée ce matin. Tu es testé et Dieu regarde comment tu réagis, comment tu travailles dans ton caractère. Est-ce que tu crois que le Dieu qui a donné tous les jours l'ordre au corbeau de te nourrir saura comment te tenir en vie ? Est-ce que tu crois que Dieu, malgré ta maladie, a suffisamment la capacité de te garder en forme avec lui ? Est-ce que tu crois que malgré l'épreuve, Dieu sait qu'il n'y a pas besoin de corbeaux ? Il n'y a pas besoin d'un torrent. Il est le Dieu des corbeaux et des torrents. Il est au-delà. Vous voyez, nous, on focalise sur la chose au lieu de focaliser sur Dieu des choses. Et Dieu dit, t'occupe pas de ça, j'ai trouvé un autre endroit pour toi. Il y a une nouvelle saison dans ta vie. Et je pense que quand il a bougé de Kérit, il était content de bouger. Parce que je sais aussi que lorsque tu es fidèle avec Dieu, il ne te laisse pas croupir dans un endroit où tu te dessèches. Dieu dit, il y a un moment où s'il voit que tu vas te dessécher, il est prêt à dire, je fais une nouvelle saison dans ta vie. C'est soit une parole de foi en terminant ce matin, que Dieu, j'attendrai ta nouvelle saison, mais si elle arrive, j'ai une consigne de toi, je la prends. Et je rentrerai dans ta nouvelle saison et je ne vais pas. Si vous voyez, si Élie avait prié pour avoir la pluie, il serait resté à Kérit combien d'années de plus? Combien d'années pour avoir gagné un petit peu d'eau, combien d'années il aurait perdu? Il vaut mieux que Kérit s'assèche, qu'il fasse son deuil de ses corbeaux, c'est facile d'ailleurs, et qu'il passe à ce que Dieu a prévu pour lui demain. On ferme les yeux ensemble. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner entre les mains de Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui, ce matin, peut-être, ont cette lutte de s'engager avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Beaucoup vont abandonner Dieu. Quand Jésus a dit des paroles difficiles, beaucoup de ses disciples sont partis. Alors Jésus leur dit, se tournant vers les 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Certains s'appuient sur leurs chevaux, d'autres sur leurs chars. Mais nous, nous plaçons notre confiance au nom de l'Éternel. Mon nom ne vient pas de mon village. Mon nom vient du Dieu qui vit en moi. Et Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin et prendre ce chant qui dit « Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, tout ce que j'appelle mien. » On ne permet à personne, surtout pas à moi d'ailleurs, parce que souvent, la première personne qui veut reprendre, c'est toi. Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Vous connaissez ce cœur? Si vous le connaissez, quand vous le voulez, vous pouvez fermer vos yeux, qu'on puisse se placer devant Dieu en vérité. Peut-être ta confiance, elle a pris un coup ces derniers temps. Peut-être tu dis, Seigneur, tu m'as mis au placard à Kérit, j'ai un ministère caché, je suis au foyer, je suis bloqué. Et Dieu te dit, c'est là ton camp d'entraînement pour moi. Je te prépare formation, protection et dépendance de Dieu. Alléluia. Levez nos mains vers le ciel pendant que la musique continue. Si vous n'êtes pas motivé, ne levez pas les mains vers Dieu. Si vous ne croyez pas que Dieu peut se servir de choses aussi médiocres que, qu'un torrent et des corbeaux, ne levez pas vos mains vers Dieu. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, restez assis. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je lève les mains parce que ma force dépend de toi. Le voyage est trop long et trop dur pour moi. J'ai besoin d'une formation spirituelle et j'accepte que tu me places à Kérit. Et j'accepte que ma vie entière soit basée sur une confiance absolue et quotidienne en toi. Chaque matin, chaque soir, viens me nourrir, Seigneur. Je prends ma Bible, je prends ma louange. Et je me nourrirai de ce que tu me donneras, Kérit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus,
tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur,
c'est vrai que tu veux mon bonheur, Seigneur. Je te fais confiance pour ça.
Tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur.
Alléluia.
Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus.
Termine avec prends mon corps et prends mon âme.
Prends mon corps et
malgré la maladie, Seigneur, je veux te suivre. Malgré les difficultés, Seigneur, je te remets tout,
Seigneur. Sois à toi.
Seigneur, sépare en moi ce qui est bon et mauvais. Forge mon caractère de Dieu. L'image de Dieu en moi.
Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur.
Prends mon corps. Alléluia.